auditeurs et auditrices de la radio Ndarason International, avec nous notre invité, Dr Ahmad Yacoub Dabio, ancien conseiller chargé des missions auprès du médiateur de la République et président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme violent. Bonjour docteur.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlons dans le cadre de l'extrémisme violent. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que veut dire l'extrémisme violent ?
Là, c'est une question qui nécessite une réponse. Malheureusement, il n'y a pas une réponse précise. Jusqu'à ce jour, on ne trouve pas une définition de l'extrémisme violent. Il y a plusieurs définitions, mais je dirais plutôt l'extrémisme violent, c'est ceux qui utilisent leur idéologie, ceux qui veulent imposer une idéologie par la force. Ça, c'est de l'extrémisme violent.
Aujourd'hui, dans le bassin du lac Tchad, la crise de Boko Haram qui mine plus de 10 ans, qu'est-ce que vous nous dites sur cette crise ?
Effectivement, la crise s'est déclenchée en 2009 après l'exécution sommaire du leader de Boko Haram, Mahmoud Issoufou. Et pendant les 10 ans, logiquement, on doit chercher à se poser la question suivante. Qu'est-ce que les États riverains du lac Tchad ont réussi à faire pour baisser la tension, pour baisser la recrudescence des attaques de Boko Haram et réduire cette violence et réduire aussi l'effectivité de Boko Haram. Parce que vous savez, nous avons fait une étude basée sur la recherche action et il s'est avéré qu'en 2016, il y a 14 520 combattants de Boko Haram. Arrivés à 2018, il y a 10 800, parmi lesquels, c'est vrai, il y a des femmes. Et il y a, en 2018, on peut se permettre de dire qu'il y a une baisse de l'activité de Boko Haram, environ 12 à 15%, parce qu'il y a eu des morts, environ 1500. Il y a eu des désengagés, qu'on appelle nous désengagés, parce qu'on ne peut pas les appeler repentis. Ils ne sont pas repentis. On n'est pas sûr qu'ils sont encore repentis. Mais on les appelle désengagés, ceux qui se sont désengagés du territoire de Boko Haram. Jusqu'à le mois d'avril 2018, ils sont 2200 désengagés de Boko Haram dans la province, j'insiste là-dessus, dans la province du lac, c'est-à-dire le lac Tchad côté tchadien. De l'autre côté, on sait qu'au Niger, le nombre n'est pas important, environ 300. Au Cameroun, le nombre n'est pas important, environ 300. Le Nigeria, au départ, le nombre n'est pas important, mais maintenant, il y a un centre et qui encourage aux Boko Haramistes de revenir. Il y a, parmi les 2200 désengagés qui se trouvent dans la province du lac, il y a des Nigérians, des Camerounais. Et quand on leur pose la question, pourquoi vous ne vous rendez pas chez vous, ils disent tout simplement, ils sont unanimes, ils disent de l'autre côté, on n'est pas sûr de la vie. On peut être sommairement exécuté. Et ça, c'est un aspect de violation des droits de l'homme aussi qu'il faut régler. Le Tchad, à travers les 4 décennies des conflits politico-militaires qu'on a vécu, le Tchad a su par expérience manier ce genre de situation. 2200 désengagés qui sont dans la nature, ils ne sont pas en détention, ils ne sont pas poursuivis et c'est ça qui encourage les Boko Haramistes de venir se rendre au Tchad. Cette année, nous sommes en train de réétudier, je ne vais pas rentrer dans les détails, nous sommes en ce moment en train de réétudier et de vérifier le nombre de Boko Haram en 2019. On va voir, est-ce qu'ils sont toujours 2200? Ils sont plus? Ils sont moins? Ceux qui sont enquêtés l'année dernière, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont partis? Tout cela, nous sommes en train de travailler dessus.
Docteur, avant de venir sur la question entre les repentis et les désengagés, ces 2200 aujourd'hui qui se trouvent sur le sol tchadien ne sont pas dans le camp, ne sont pas quelque part, ils sont dans la nature. Est-ce que ce n'est pas une question d'une orientation de ces personnes?
J'ai dit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécuritaire et administratif. Ça, je ne peux pas répondre dessus. Mais il y a un aspect de réhabilitation, de réinsertion socio-professionnelle de ces gens. Cet aspect n'a pas été traité et je le déplore. Et depuis l'année dernière, nous appelons les autorités compétentes, les bailleurs de fonds, les partenaires étrangers, les ONG, à s'impliquer sur ce dossier pour pouvoir insérer socialement et professionnellement ces 2200 désengagés. Parce que c'est un outil aussi de prévention si on réhabilite ces gens. Mais on ne l'a pas fait. Souhaitons qu'on le fasse.
Vous avez parlé de désengagés et repentis qui sont différents. Est-ce qu'il y a un nombre de repentis de Boko Haram?
J'ai dit non, parce que pour qu'un Boko Haramiste soit repenti, il faut passer par un processus d'encadrement, de réhabilitation, d'insertion. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce processus. Ces gens sont dans la nature, ils sont chez leur famille et ils vaquent à leur occupation. Donc on ne peut pas les appeler repentis. Ils sont désengagés jusqu'à preuve contraire.
Et aujourd'hui, comment peut-on trouver une paix après 10 ans de conflit dans le bassin du lac Tchad?
J'ai dit, quand quelqu'un est en face avec une arme qui vous menace, qui menace la sécurité de l'État, il est normal et logique que l'État se défendre avec, par la voie militaire. Mais tout en se défendant, l'État doit étudier tous les moyens, toutes les options pour pouvoir faire face à ces fléaux. Est-ce que nous avons fait? Moi, j'ai dit non. En plus de cela, il faut une stratégie de prévention. C'est-à-dire, la lutte contre l'extrémisme doit être en amont et en aval. C'est-à-dire, au moment où vous engagez l'armée pour combattre ces fléaux, ces cancers, il est nécessaire aussi d'avoir une politique de prévention qui doit se baser sur la jeunesse à partir de la crèche, à partir de la maternelle, à partir de l'école primaire, pour inculquer à nos enfants que le fait d'être différent sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan de nationalité, c'est une richesse. Et donc, on doit renforcer cette richesse. Et là, il faut le faire à partir de maintenant. Et c'est pourquoi, nous, au niveau du CEDP, on a déjà écrit au ministre de l'Éducation nationale au Tchad pour que le ministre doit envisager une matière pédagogique en ce sens afin d'inculquer à nos élèves à partir du bas âge la culture de savoir-vivre et leur donner les outils d'éviter d'être manipulés par les extrémistes. Ça, c'est très important. C'est vrai, on n'a pas eu une réponse. J'aurai l'occasion, dans les prochains jours, de rencontrer le ministre de l'Éducation avec qui je dois parler de vive voix et je défends cette option.
Il y a combien de types de l'extrémisme?
Nous, au niveau du centre, on dit qu'il y a deux types d'extrémisme. L'extrémisme violent et l'extrémisme intelligent. C'est une approche que nous sommes en train de travailler dessus. Je donne un exemple. Vous rentrez dans un bureau, voir un chef de service à qui vous donnez un dossier pour qu'il vise. Je ne parle même pas de signature. Le chef de service vous demande de revenir le lendemain. Vous revenez le lendemain, il n'est pas là, et vous faites des va-et-vient jusqu'au jour où vous pouvez perdre votre sang-froid et vous utilisez la violence. Donc ce que le chef de service le fait, nous appelons ça de l'extrémisme intelligent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne se cache, se protège par la loi, parce que il dit qu'il est occupé et il doit vérifier le dossier. Je prends l'exemple de Mamoudou Youssouf, le leader de Boko Haram. Il a été sommairement exécuté alors qu'il fallait l'arrêter et le présenter à la justice. Ça, c'est de l'extrémisme intelligent. Et les forces de l'ordre se cachent derrière la loi pour exercer un extrémisme intelligent.
Aujourd'hui, le cas de Mamoudou Youssouf, jusqu'à là, est-ce que l'étude a été déjà relevée? Qui a la responsabilité de ce début de crise de Boko Haram?
Moi, j'ai dit avec insistance que, quelles que soient les conditions, on ne doit pas exécuter sommairement quelqu'un. On doit le présenter à la justice et c'est la justice qui tranche. Tel n'était pas le cas et les forces de l'ordre nigériennes ont cru pouvoir mettre fin à la secte Boko Haram, mais c'est le contraire qui s'est réalisé. Ils ont déclenché une insurrection militaire qui a affecté toute la région du bassin du lac Tchad et au-delà. On a ce qui s'est passé en Libye. C'est de l'extrémisme intelligent que Sarkozy a utilisé. Mais il s'est caché derrière la loi, derrière les juridictions internationales qui n'ont pas lieu d'être.
Aujourd'hui, pourquoi vous, le centre d'études, parle l'extrémisme intelligent est plus dangereux que l'extrémisme violent?
Si, parce que c'est l'extrémisme intelligent qui irrigue l'extrémisme violent. Je viens de vous donner l'exemple de l'exécution sommaire du leader de Boko Haram, Mamoudou Youssoufou. Voilà le résultat. Ça a irrigué l'extrémisme violent qu'on n'arrive pas jusqu'à là à le contrer. Donc nous, on dit l'extrémisme intelligent est plus grave, plus dangereux que l'extrémisme violent parce que c'est l'extrémisme intelligent qui irrigue l'extrémisme violent. Et c'est pourquoi on doit tout faire pour encadrer. J'ai pris l'exemple de chef administratif, on doit les former et les encadrer. Je prends aussi l'exemple de violation des droits de l'homme. Il se cache derrière la loi pour commettre des violations des droits de l'homme. On vous dit qu'on l'a torturé parce qu'il est suspect et il doit avouer certaines choses. Or, ça encourage l'extrémisme violent.
Aujourd'hui, comment peut-on prévenir l'extrémisme intelligent?
C'est avec la sensibilisation, la communication et la formation. Nous sommes en train de travailler sur cette approche. Et on a prévu des formations en commençant par l'administration tchadienne et on encourage les autres administrations d'autres pays membres du bassin du lac Tchad.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une solution commune pour la crise de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad?
J'ai dit, il faut prendre l'exemple des guerres passées un peu partout. Les États-Unis d'Amérique, la nation la plus militarisée, la nation la plus forte du monde, qui a cru pendant un certain temps de mettre fin aux talibans. Après 10 ans, ils ont ouvert le dialogue avec ce qu'ils appelaient autrefois terroristes. Avec la force qu'ils maintiennent, ils n'ont pas pu régler le problème de la Libye, de la Syrie, d'Irak, de Yémen, d'Afghanistan et j'en passe. Même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à la fin des négociations. Et moi j'ai dit, parmi les options, pourquoi ne pas avoir le courage d'ouvrir des négociations avec les modérés de Boko Haram, ceux qui n'ont pas eu la main sale. Pourquoi ? Ça fait aussi partie des options, parce que la paix n'a pas de prix. Nous avons déjà une expérience au Tchad, l'histoire des politico-militaires. Il y a eu des morts, et malgré cela, le Tchad, par son expérience, a eu à engager des dialogues, des négociations entre l'État et les politico-militaires. Et c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, on a eu une sorte de paix. On peut rencontrer quelqu'un qui était de l'autre côté dans des mouvements politico-militaires, un commandant, et qui a participé à des guerres. Et quand il y a la guerre, il y a des hommes qui sont morts. Et malgré cela, il y a l'amnistie et on peut les rencontrer, ils vaquent à leur occupation.
Vous avez parlé de sensibilisation, de dialogue. Quel est même le rôle des médias dans la crise ?
Oh, vous avez touché un point très sensible. Les médias, ou je dis au pluriel les médias, ont un rôle très important. Et c'est grâce d'abord aux médias qu'on peut suivre l'évolution de la situation. Et c'est grâce aux médias qu'on peut sensibiliser les Boko Haramistes de revenir à la raison et de se rendre. Moi, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez la radio qui est au lac Tchad ? Cette radio a joué un rôle aussi très important, comme d'ailleurs la vôtre, pour faire venir à la raison beaucoup de Boko Haram. Il y a des désengagés qui nous disent, oui, moi j'ai appris par la radio que c'est possible de venir se rendre sans être poursuivi ni jugé. Et ça, c'est très important. Mais il faut qu'on donne aussi les moyens nécessaires à tous ces médias. Aujourd'hui, en Afrique et plus spécifiquement dans la zone du bassin du lac Tchad, les États ne donnent pas les moyens nécessaires aux hommes des médias. Il faut renforcer leur rôle. Il y a les médias, la presse écrite, la presse orale, la presse audiovisuelle, il y a la radio. Il faut renforcer le moyen de ces hommes qui risquent de leur vie pour qu'ils puissent travailler et avoir un résultat fructueux sur le terrain. Et comme on dit, la paix n'a pas de prix. Je prends l'exemple aussi des désengagés. Un désengagé, son insertion socio-professionnelle, d'après notre étude, coûte environ 11 000 francs CFA par nuitée. En prenant tous ces désengagés, ils coûtent moins le prix peut-être d'un char d'occasion. Mais malheureusement, ni les États, ni les bailleurs de fonds, ni la communauté internationale ne sont pas encore penchés sur ces dossiers. D'abord, les désengagés, il faut les insérer. En plus, les médias, il faut renforcer leur capacité pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions.
Aujourd'hui, on dit la voix de la paix est plus forte que la voix de la violence. Qu'est-ce que vous nous dites sur ça ?
Moi, je suis bien placé pour répondre à cette question. On a vu la guerre qui s'est déclenchée dans nos villes en 79. Le même jour, février 79, moi j'ai eu ma mère qui a été tuée, ma sœur qui a été tuée, sans parler des amis, des collègues avec lesquels on était des jeunes heureux, et ils ont perdu leur vie. Et c'est là qui m'a poussé aussi de contribuer à la création de ces centres. Parce que quand j'étais jeune, j'ai cru à l'idéologie selon laquelle il faut aller combattre les Kurdes. Il y avait Tombalbaï, et j'ai cru. J'ai quitté la classe de 4e avec des amis, des collègues pour aller rejoindre le Frelina et combattre les Kurdes. C'est après, j'ai dit Dieu merci, je suis instruit, je suis cultivé aujourd'hui, j'ai compris que c'était une erreur. Les Kurdes ont droit d'être président, comme tout autre citoyen. S'il est juste, s'il est normal, une femme ou un homme, chacun a droit d'être président. Pourquoi combattre les Kurdes ? Et là, le rôle des centres, là, vous comprenez maintenant pourquoi nous, on renforce la capacité de ces centres, surtout en soutenant la jeunesse. Il ne faut pas qu'on manipule la jeunesse. Il faut qu'on laisse la jeunesse tranquille, qu'elle évolue, parce que c'est l'avenir de ce pays, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du monde.
Merci beaucoup, Dr. Ahmad Yacoub Dabio, ancien conseiller chargé des missions auprès des médiateurs de la République et président des centres d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme.
Merci, cher Mamad Ali, et merci à votre radio, et je vous encourage vivement.